Bonjour Emmanuel Laurentin, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Diffusés tous les jours, du lundi au vendredi, de 10h à 11h. Les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés cette semaine par Christine Robert avec Florent Layani à la technique et préparés par Solène Saleur, Avril Ventura, Geneviève Méric, Mathilde Unger, Camille Lugan, Adèle Van Rett. Adèle, justement, que vous retrouverez tout à l'heure, comme tous les jours, à 10h50 pour le journal des Nouveaux Chemins, en compagnie aujourd'hui de Philippe Baudouin, qui vous parlera, qui nous parlera de Walter Benjamin. Suite et avant-dernière ce jeudi d'une semaine sur le scepticisme dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Après le scepticisme antique dont on parlait lundi, après Montaigne et puis Pascal, c'est à une sorte de grand écart peut-être que nous vous convions aujourd'hui, un grand écart intuitif, entre la pensée de David Hume, théoricien génial, du scepticisme d'un scepticisme mitigé, comme il dit, et les principes, ou les antiprincipes, je ne sais pas, de la physique quantique. Est-ce l'équivalent de la rencontre entre un parapluie et une machine à coudre sur une table de dissection ? À vous de nous le dire, quoi qu'il en soit. Pour parler de Hume, j'accueille avec plaisir Didier Deleul, président de la Société française de philosophie, spécialiste de David Hume, qu'on avait déjà reçu d'ailleurs à cet égard au Nouveau Chemin de la Connaissance. Et pour parler de physique quantique, j'accueille Michel Bitbol, qui est directeur de recherche au CNRS et chargé de cours à Paris 1. J'ajoute qu'on sera en compagnie de Mathilde Unger, dont le travail préparatoire à cette émission rend la présence indispensable.
De même que l'opération de l'esprit qui imagine ou invente pour la première fois un effet particulier dans le domaine des phénomènes naturels est arbitraire tant que nous ne consultons pas l'expérience, de même il nous faut tenir pour arbitraire ce prétendu lien, cette prétendue connexion qui unirait ensemble la cause et l'effet et rendrait impossible qu'un autre effet résultât de l'action de cette cause. Quand je vois par exemple une boule se mouvoir en ligne droite vers une autre, à supposer même qu'il me vienne accidentellement à l'esprit qu'un mouvement de la seconde boule sera le résultat du contact ou de l'impulsion, m'est-il impossible de concevoir que cent événements différents de celui-là eussent pu tout aussi bien résulter de cette cause ? Ces boules, ne peuvent-elles toutes deux demeurer dans un repos absolu ? La première boule, ne peut-elle revenir en droite ligne ? Ne peut-elle s'éloigner de la seconde, dévier, suivant une ligne, une direction quelconque ? Toutes ces suppositions sont cohérentes et concevables. Pourquoi donc alors donner la préférence à l'une d'elles, quand les autres ne sont ni moins cohérentes, ni moins concevables ? Qu'on raisonne a priori, tant qu'on voudra, on ne sera jamais en état de découvrir le fondement de cette préférence. En un mot, donc, tout effet est un événement distinct de sa cause.
Bonjour Didier Deleul, bonjour Michel Bitbol.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bienvenue à France Culture, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. On va parler de physique quantique et de David Hume et de physique quantique et on va voir si ça fonctionne ou pas. Il nous faut tenir, dit David Hume dans le texte qu'on vient d'entendre lu par Jean-Louis Jacopin, un extrait de son enquête sur l'entendement humain. Texte génial, hein, il faut le dire, on le dira jamais assez. Il nous faut tenir, dit-il, pour arbitraire ce prétendu lien, cette prétendue connexion qui unirait ensemble la cause et l'effet et rendrait impossible qu'un autre effet résultat de l'action de cette cause. Traduction, si je regarde deux boules de billard, que j'observe qu'en lançant l'une sur l'autre, eh bien l'autre se déplace, le choc de l'une, j'aurais tendance à penser, naturellement, légitimement peut-être d'ailleurs, que le choc provoqué par le fait d'avoir lancé la première détermine le mouvement de la seconde. Or, dit Hume, nous ne pouvons observer là, et nous n'observons là qu'une concomitance, ce n'est que par habitude, finalement, qu'on parle ici d'une relation de cause à effet. Didier Deleul, est-ce que j'ai raison en disant cela ?
Tout à fait, vous avez très bien dit les choses. L'exemple des boules de billard, qui est illustre, et qui d'ailleurs vient de Malebranche, cet exemple, naturellement, n'intéresse pas seulement les amateurs de carambolage. Il s'agit d'une réflexion générale sur la causalité. Alors, Hume le précise, si je considère a priori, c'est-à-dire en dehors de toute expérience, effectivement, À ce compte-là, on pourra estimer que n'importe quoi peut produire n'importe quoi, a priori, en dehors de toute expérience. Naturellement, il n'en va pas ainsi. L'expérience fait que, même si elle est constamment répétée, même s'il y a mille fois de cette congruence entre la cause de la première bille qui va heurter la seconde et qui va l'envoyer dans une direction précise, néanmoins, cette constance ne peut en aucune manière être considérée comme une liaison nécessaire. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que la constance observable ne peut à aucun moment être rattachée à une nécessité quelle qu'elle soit.
On est tous un peu dans la situation du coq d'Edmond Rostand qui croit que c'est son chant qui fait lever le soleil.
Exactement.
Quand on repère une cause là où il n'y a qu'une concomitance.
Naturellement, oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a une confiance d'emblée accordée à ce que nous voyons, à ce que nous côtoyons. Et cette confiance, et qui est en réalité un assentiment, et pas seulement une confiance légère, ce n'est pas une simple foi, c'est véritablement une confiance affirmée, c'est une conviction. Nous sommes absolument convaincus que les choses se passent ainsi. Et naturellement, si on prend l'exemple, par exemple, l'exemple du soleil, bon, l'héliocentrisme est tout à fait contraire à notre position. Et spontanément, nous sommes tous géocentristes. L'histoire du coq.
De la même façon que nous nous prenons pour le centre du monde, puisque nous sommes le centre de nous-mêmes. Didier Deleuil, pour le dire autrement et en termes plus abstraits, hein, Hume pose un écart entre ce que nous posons comme réalité, par quoi ici il faut entendre un monde abstrait, structuré par des lois nécessaires, que Hume tient pour une construction métaphysique. Et ce que nous percevons. Dans quelle mesure, Michel Bidbol, je me tourne vers vous, cet écart, cette façon qu'a le mal-pensant David Hume, ce qui ne veut pas dire qu'il pense mal, mais le mal-pensant, le philosophe, l'empêcheur de tourner en rond, finalement, David Hume, cette façon qu'il a de marquer un écart là où nous voyons spontanément, faisant confiance au phénomène et à ce qu'on en déduit, là où nous voyons de la causalité, Hume voit de la concomitance, cet écart qu'il pose entre les constructions que nous faisons et ce que l'expérience nous montre, est-il de nature à éventuellement éclairer ou peut-être introduire tout simplement aux considérations et au système qui est celui de la physique quantique?
Oui, certainement. D'abord parce que beaucoup des créateurs de la mécanique quantique étaient extrêmement influencés par l'empirisme, il faut le dire. Donc il n'y a pas seulement, si vous voulez, un effet de la physique sur la philosophie, mais aussi un effet historique de la philosophie sur la physique. D'autre part, il est clair que la question de la causalité s'est beaucoup posée au moment de la création de la physique quantique, donc aux environs du début du XXe siècle. Vous savez qu'elle s'est particulièrement posée dans deux circonstances. La première, c'est lorsque Max Born a essayé de trouver la signification de la fameuse fonction psi, qui était une fonction d'onde formulée par Erwin Schrödinger au début de l'année 1926. Eh bien, Max Born lui a donné une signification probabiliste. C'est-à-dire que c'était plutôt un instrument de calcul de probabilité qu'une simple description d'un processus ondulatoire se déroulant spontanément dans la nature. Donc, étant donné que cette fonction d'onde ne pouvait être interprétée que de façon probabiliste, Max Born en a inféré, je cite, que l'abandon du déterminisme dans le monde des atomes est devenu obligatoire. Donc c'est ça ce qu'il a... Enfin, c'était une proposition très forte qu'il a émise à la fin d'un article de pure physique. Et c'était pourtant une proposition, vous le voyez, d'ordre philosophique.
Mais justement, Michel Bidbol, est-ce que quand il dit l'abandon du déterminisme est obligatoire, est-ce que c'est prudence de sa part ou est-ce que c'est au nom d'une conception, d'une ontologie au fond? Est-ce que il s'agit de dire qu'en termes scientifiques, il vaut mieux renoncer au déterminisme parce que c'est une hypothèse inféconde, ou bien est-ce que c'est une façon de dire il n'en est rien et ça n'est pas comme ça qu'il faut regarder les choses? Au fond, est-ce qu'on est dans le scepticisme ou est-ce qu'on est dans le remplacement d'une thèse par une autre?
Non, on est plutôt dans le scepticisme. Donc Max Born ne va pas jusqu'à dire que le monde est intrinsèquement indéterministe. Il dit simplement que, de fait, dans la description quantique, on ne peut pas faire autrement que d'interpréter les symboles qu'elle utilise de façon non déterministe.
Mathilde Unger, une question.
Oui, cette équation de Schrödinger qui décrit l'évolution d'une particule dans le temps, Quel sens lui donner alors ? Est-ce que, si ce n'est pas un sens probabiliste, est-ce qu'on peut dire qu'elle décrit quelque chose du réel, ou est-ce que là encore elle pose un scepticisme qui serait intrinsèque au réel lui-même ?
Alors bon, donc l'équation de Schrödinger régit l'évolution d'une fonction psi qu'on appelle une fonction d'onde, parce, tout simplement parce que l'équation a la forme à peu de choses près d'une équation d'onde. Donc c'est vraiment très formel. Vous avez un objet mathématique qui a la forme d'une onde. Mais quand on essaye de le comprendre, eh bien là arrivent toutes les difficultés. Et la seule interprétation universellement admise qui ait été donnée, c'est, comme je vous le disais, celle de Max Born en 1926. La fonction d'onde n'est autre qu'un instrument pour calculer la probabilité que l'on trouve une particule lorsque on effectue une mesure en un point. Point. Et il ne s'agit pas de considérer qu'il existe quelque chose comme une onde qui se déplace et que l'on va décrire par la théorie. Il s'agit simplement de décrire un outil mathématique de calcul des probabilités, ce qui est fort différent.
Didier Deleuille, est-ce que ce que Michel Wittbold nous dit de la philosophie, de la mécanique quantique, prolonge le scepticisme humien? En somme, est-ce que la causalité finalement relève de l'ordre de la croyance, tout simplement? Ou est-ce que, à vos yeux de lecteur de Hume, de connaisseur de Hume, on est là en présence peut-être d'un scepticisme encore plus profond? Est-ce qu'au fond, on est toujours dans du scepticisme si on considère que le doute ou l'indétermination sont presque intrinsèques, et je ne sais pas si je trahis votre pensée en disant cela, intrinsèques à la nature même? Didier Deleuille.
Je crois qu'il faut distinguer, parce que cet indéterminisme dont vous faites état, finalement, n'a de sens que par rapport à l'observation et à l'observateur lui-même. Ça ne veut pas dire que la nature elle-même serait indéterminée. Bon. Or, c'est exactement la position de Hume. Hume n'a jamais été indéterministe. Il n'a jamais pensé que la causalité était un mythe, une fiction. Simplement, ce qu'il tente de montrer, c'est que nous n'avons aucune preuve intuitive ou démonstrative concernant la causalité. Et que par conséquent, nous sommes réduits à appréhender ce phénomène à travers une faculté ou une disposition qu'il appelle la croyance et qui est liée à l'habitude acquise, le casse l'accoutumance. Bon, ce qui veut dire que Hume, à aucun moment, ne doute, bien entendu, que la boule de billard qui s'est précipitée sur l'autre va lui transmettre un mouvement. Bon. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est simplement que nous n'avons pas la possibilité de donner un fondement véritablement démonstratif ou intuitif, à la causalité. Et c'est là que se marque le scepticisme, qui naturellement n'est pas le scepticisme pyrrhonien, sur lequel on reviendra peut-être plus tard, mais qui est le scepticisme mitigé, comme vous l'avez dit, c'est l'expression même de Hume, le scepticisme moderne, c'est-à-dire celui qui s'appuie sur l'idée que nous n'avons pas d'autre possibilité d'appréhension des phénomènes qu'à travers la croyance. En dehors des relations d'idées, mais des relations nécessaires qui sont d'ordre mathématique pour l'essentiel, algèbre, géométrie, mais surtout algèbre et arithmétique, en dehors de cela, nous avons affaire à des faits, et les faits eux-mêmes, les matters of fact, comme il dit, les faits eux-mêmes, ne sont pas naturellement réductibles à des relations d'idées. Ce qui veut dire que le contraire d'un fait est toujours pensable. Il se peut très bien que demain le soleil ne se lève pas. Je peux l'imaginer, même s'il n'y croit pas. Enfin, le contraire d'un fait est toujours pensable. En revanche, évidemment, en ce qui concerne les relations d'idées, il en va tout autrement.
Alors, Michel Wittbold, peut-être.
Oui, alors là, c'est vraiment extrêmement intéressant parce que finalement, Hume lui-même, dans l'enquête sur l'entendement humain, nous explique que lorsque une cause manque de produire son effet habituel, donc je le cite, lorsqu'une cause manque de produire son effet habituel, les philosophes n'attribuent pas ce manquement à une irrégularité dans la nature, mais ils supposent que des causes cachées dans la structure des parties ont prévenu l'opération. C'est-à-dire, quand ils voient qu'effectivement, on ne peut pas faire saisir des causes, lorsque quelque chose manque dans l'inventaire des causes fait par l'expérimentateur, eh bien, il faut en chercher derrière. Derrière, en tout cas, certains philosophes, du moins, dit Hume, les cherchent derrière le monde véritablement accessible au phénomène. Et cela a un correspondant évident dans l'histoire de la mécanique quantique. C'est la recherche des théories à variables cachées. Un certain nombre de physiciens ont constaté que les relations d'incertitude de Heisenberg et tout l'aspect indéterministe de la physique quantique n'étaient peut-être, du moins espérait-il, qu'une manière d'exprimer notre incapacité d'accéder aux vraies causes. Et que si on cherchait, du moins par la pensée, un petit peu plus loin, eh bien, on allait peut-être découvrir un univers caché, un univers derrière les phénomènes, qui serait tel qu'il serait entièrement régi par les lois de la causalité, et néanmoins que les apparences, celles que nous voyons, celles que nous appréhendons au laboratoire, se passeraient entièrement comme si il n'y avait pas de relation de cause à effet. Donc d'un côté, des causes cachées, et de l'autre, une apparence non causale.
Donc c'est vous, ça savez, le projet. Vous connaissez la phrase de Montaigne, on l'a citée mardi dernier avec Frédéric Brahami, c'est dans le chapitre sur les boiteux. Dans les essais, il dit « Il laisse les choses et court aux causes, plaisant causeur. » Mathilde Unger, une question.
Oui, il semble que la limite du scepticisme, chez Hume notamment, c'est justement la vérité qu'on trouve dans l'expérience. Alors j'aimerais vous demander, Michel Bitbol, dans la mécanique quantique, quelle place donner à l'expérience ? Est-ce que c'est justement quelque chose qui peut donner cette immédiateté dans la recherche de la vérité, puisqu'on a au contraire ce principe d'indétermination d'Heisenberg, et donc un obstacle toujours présent entre l'expérience et son appréhension.
Et alors, je vais vous demander juste en préambule à votre réponse de revenir un instant pour nos auditeurs sur justement le principe et l'indéterminisme d'Heisenberg.
Alors bon, donc les relations d'incertitude de Heisenberg, donc elles ont été formulées par Heisenberg. Donc elles ont été créées en fait fin 1926 et formulées en 1927. L'idée était en fait de retrouver une part de l'intuition mécanique perdue par le précédent travail qui avait été fait sur la mécanique ondulatoire et la mécanique matricielle de Heisenberg. Comment a-t-il fait ? En fait, Heisenberg a voulu retrouver l'idée de trajectoire de corpuscule. Malheureusement, dans les deux théories qui venaient d'être formulées, c'est-à-dire mécanique matricielle et mécanique ondulatoire, qui ensuite ont fusionné en une seule théorie, qui est la mécanique quantique actuelle, eh bien, il n'y avait aucun équivalent formel du concept de trajectoire de corpuscule. Alors, Heisenberg a essayé de travailler les idées et de dire que le concept de trajectoire de corpuscule pouvait encore être soutenu à condition d'admettre que la position n'était jamais exactement déterminée, ni d'ailleurs la vitesse ou la quantité de mouvement, et que de plus, le produit de la détermination de la vitesse par la détermination de la position connaissait des limites, justement. Donc ces limites-là ont été traduites par Heisenberg sous forme d'une véritable déclaration d'impossibilité du principe de causalité. Et Heisenberg dit la chose suivante à la fin de son article de 1927, « La mécanique quantique établit l'échec final de la causalité ». Après, il y est revenu. Hein. Bon. Mais à cette époque-là, ça avait l'air d'être une déclaration assez définitive.
Ça veut dire que, justement, cette indétermination vient du fait que les instruments de mesure perturbent le système. Et donc, d'une certaine façon, on n'arrive jamais à déterminer à la fois la position et la vitesse de la particule. C'est bien ça ?
Alors, ça, c'est une interprétation possible.
Ah, c'est une interprétation,
absolument. C'est une interprétation que, d'ailleurs, Heisenberg a immédiatement donnée au moment de la formulation de ses relations d'incertitude. Il a dit, eh bien, l'explication du fait qu'on ne peut pas connaître avec une précision indéfinie aussi bien la position que la quantité de mouvement, c'est que l'agent de mesure perturbe le processus mécanique qui se passe. Bon, mais en vérité, très vite, les créateurs de la mécanique quantique, et en particulier Bohr, sont revenus là-dessus et ont remarqué que c'était tout simplement absurde de dire ça. Pourquoi ? Parce que si vous dites qu'il y a un processus et que malheureusement l'agent de mesure le perturbe, ça veut dire que d'une certaine façon, vous savez ce qu'est le processus indépendamment de la mesure. Or, ce n'est pas le cas. Tout ce qu'on a, ce sont les phénomènes eux-mêmes. Et donc, Bohr a insisté beaucoup sur l'idée selon laquelle le phénomène devait être décrit et défini de telle sorte qu'il soit inséparable du moyen expérimental de sa mise en évidence.
On va revenir justement sur ce paradoxe. Didier Deleule.
Oui. Oui, un mot simplement, parce qu'effectivement, traditionnellement, la relation d'indétermination ou d'incertitude de Heisenberg est interprétée en fonction de l'observation, l'observateur lui-même. C'est-à-dire l'émission de photons qui interdit le repérage simultané de la vitesse ou de la position de l'électron. Donc, il s'agit bien de l'intervention d'un sujet qui, du même coup, rend problématique la relation de causalité. Mais ça ne veut pas dire que pour autant il y ait indétermination totale, je veux dire indéterminisme. Car on peut très bien...
Est-ce que, Didier Deleuze, est-ce qu'on n'est pas, là encore, très près de Hume, finalement,
qui
inaugure le fait que... Alors, tout en interdisant de parler de causalité, il solidarise en même temps celui qui observe et le phénomène observé. C'est-à-dire qu'il introduit ce qu'on a appelé après la corrélation, nécessité finalement d'une relation réciproque entre un phénomène et un observateur, de sorte qu'on se retrouve ici pas loin de ce qu'on sait de la physique quantique quand on n'y connaît rien, Michel Wittbold, à savoir que les instruments de mesure en physique quantique semblent perturber le système observé et par conséquent il y a une solidarité entre les deux. Didier Deleuze.
Tout à fait, c'est la raison pour laquelle je me suis permis de reprendre à nouveau frais cette relation, parce que c'est effectivement tout à fait humain à certains égards. Pas le fait d'intervenir, la position même du sujet... la position même du sujet connaissant, fait en sorte que son investissement dans la connaissance même, dans le processus de connaissance, ne peut pas aboutir à une relation qui serait une relation objective. Et du même coup, on est toujours du côté, effectivement, de la créance, de la croyance, de la confiance. Nous pensons qu'effectivement, les choses devraient se passer ainsi. Heureusement, d'ailleurs, en général, il se passe ainsi. Et par conséquent, nous sommes réduits à une position de confiance.
On va rester.
Le sujet de Hume est un sujet confiant.
Tout le monde ne l'est pas, justement. On va rester sur ce paradoxe qu'on se propose d'illustrer. On va revenir dessus, hein, Michel Wittbold, parce que je veux avoir votre sentiment, évidemment, sur cette question, et également sur le texte qu'on va vous donner à entendre maintenant, qui est un extrait de Sodome et Gomorre, issu de la recherche du temps perdu. Dans Sodome et Gomorre, le baron de Charlus, fou d'amour pour Morel, lui court après, et le suit notamment dans un bordel. Où Charlus paye la maquerelle pour pouvoir observer Morel. Et il observe Morel, et le problème, c'est que, à son insu, Morel lui-même découvre que le baron l'observe. Vous allez voir comment tout cela fonctionne. Écoutez.
Enfin, le baron put voir par l'ouverture de la porte et aussi dans les glaces. Mais une terreur mortelle le força de s'appuyer au mur. C'était bien Morel qu'il avait devant lui, mais comme si les mystères païens et les enchantements existaient encore, c'était plutôt l'ombre de Morel. Morel embaumé, pas même Morel ressuscité comme Lazare. Une apparition de Morel, un fantôme de Morel, Morel revenant ou évoqué dans cette chambre, où partout les murs et les divans répétaient des emblèmes de sorcellerie, qui étaient à quelques mètres de lui, de profil. Morel avait, comme après la mort, perdu toute couleur. Entre ces femmes avec lesquelles il semblait qu'il eût dû s'ébattre joyeusement, livide, il restait figé dans une immobilité artificielle. Pour boire la coupe de champagne qui était devant lui, son bras sans force essayait lentement de se tendre et retombait. On avait l'impression de cet équivoque qui fait qu'une religion parle d'immortalité, mais entend par là quelque chose qui n'exclut pas le néant. Les femmes le pressaient de questions. « Vous voyez ?» dit tout bas mademoiselle Noémie au baron. « Elle lui parle de sa vie de régiment, c'est amusant, n'est-ce pas ?» Et elle rit. « Vous êtes content ? Il est calme, n'est-ce pas ?» ajouta-t-elle, comme elle aurait dit d'un mourant. Les questions des femmes se pressaient, mais Morel, inanimé, n'avait pas la force de leur répondre. Le miracle même d'une parole murmurée ne se produisait pas. Monsieur de Charlus n'eut qu'un instant d'hésitation. Il comprit la vérité et que, soit maladresse de Jupien quand il était allé s'entendre, soit puissance expansive des secrets confiés qui fait qu'on ne les garde jamais, soit caractère indiscret de ses femmes, soit crainte de la police, on avait prévenu Morel que deux messieurs avaient payé fort cher pour le voir. On avait fait sortir le prince de Guermantes, métamorphosé en trois femmes, et placé le pauvre Morel, tremblant, paralysé par la stupeur, de telle façon que, si Monsieur de Charlus le voyait mal, lui, terrorisé, sans parole, n'osant pas prendre son verre de peur de le laisser tomber, voyait en plein le baron.
Michel Bidbol, c'est magnifique ça.
Hein. Super.
C'est splendide. Morel et Charlus. Charlus est dans le rôle de l'observateur. Il voit un Morel fantomatique et il comprend que si Morel est fantomatique, c'est parce qu'en fait, c'est Morel lui-même qui le voit. De sorte que le phénomène observé est tributaire évidemment du dispositif et du fait qu'il est spectateur lui-même de celui qui l'observe. Est-ce qu'on est là dans quelque chose qui peut-être permet d'éclairer la nature de la physique quantique et les dispositifs qu'elle implique ?
Ah oui, j'adore cette idée de réciprocité, mais je pense qu'on peut encore la radicaliser. D'abord, je voudrais rappeler que nous en étions un petit peu restés à un schéma dualiste typique de la théorie classique de la connaissance. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un objet qui fait ce qu'il a à faire. De l'autre, un sujet qui vient interagir avec lui pour essayer de capturer une information sur lui et qui malheureusement le perturbe. Mais il y a une toute autre façon de voir. Il y a une façon de voir qui inverse complètement le schéma, qui est de dire, OK, d'une part, vous avez le phénomène qui est un pur produit d'interaction, mais un produit d'interaction dont on ne veut plus se soucier de ce qui interagit, ni sujet ni objet. C'est simplement le phénomène. Puis maintenant, à partir de ces phénomènes, quel genre d'image de l'objet peut-on reconstruire ? C'est exactement cela que les êtres humains et les êtres même beaucoup plus primitifs que les humains ont dû faire au cours de l'histoire de l'élaboration de la cognition. Et c'est exactement ce genre de travail de reconstruction d'un concept objet qu'ils doivent faire dans le cas de la physique microscopique et de la physique quantique en particulier. Donc c'est vraiment une inversion du schéma. Vous n'avez plus un objet, un sujet de l'autre. Vous avez des phénomènes et reconstruction d'un concept d'objet à partir des phénomènes. C'est tout le travail qui a été fait et qui est effectivement assez difficile parce que ça brise quantité d'intuitions, quantité de représentations, mais qui a été fait donc au cours des 40 à 50 ou 80 années passées.
Didier Deleuil, vous avez, en parlant de Hume tout à l'heure, expliqué que Hume rendait impossible toute objectivité, mais en même temps, le fait de penser la connaissance sur un mode, une relation nécessaire entre un sujet et un objet, met en situation, il n'y a pas d'objet sans sujet, nous met en situation de construire un objet. C'est-à-dire que ce qui interdit l'objectivité est également ce qui impose d'élaborer, de construire, de fabriquer un objet.
Oui, tout à fait. Vous avez pris l'exemple, le texte magnifique de Sodome et Gomorre, qui naturellement est une description de ce qui se passe dans un bordel. Bon. Or, précisément...
Il faut ici entendre bordel au sens de désordre.
De désordre, voilà. Et c'est exactement ce que je suggérais à l'instant. Hume, justement, s'acharne à démontrer qu'il n'y a pas d'ordre naturel. Et que, par conséquent, il faut bien distinguer, certes, entre ordre et dessin, order et design, comme il le montre dans les dialogues sur la religion naturelle, mais que même, en ce qui concerne l'ordre, il s'agit d'une construction, d'un devenir, et non pas de quelque chose qui est donné. De telle sorte que l'une des hypothèses, par exemple, évoquées dans les dialogues qui est rapportée à Straton de Lanzac, implique cette idée qu'il y aurait comme une nécessité aveugle qui, peu à peu, forgerait quelque chose dans une tradition quasiment épicurienne, une construction de monde à partir d'un chaos initial. Cette idée qu'il y aurait un désordre premier et que par conséquent l'ordre ne serait jamais quelque chose d'autre qu'une construction, naturellement, implique aussi que de la part du sujet connaissant, il y ait cette possibilité de reconnaître quelque chose qui serait en voie de construction. Ce qui suppose aussi de la part du sujet une puissance d'inventivité.
Ce qui est quand même extraordinaire, c'est d'observer comment un philosophe sceptique du XVIIIe siècle peut, en formulant des intuitions de bonne foi et en honnête homme qu'il est, rejoindre des intuitions qu'il ne peut pas soupçonner, qu'il ne peut jamais soupçonner. C'est comme si on avait des secrets finalement qui s'ignorent l'un l'autre et qui en fait se tiennent la main. Michel Bitbol.
Oui, effectivement, le problème c'est que cette question de scepticisme quant à l'ordre ou au désordre de la nature, c'est quelque chose qui peut s'inférer de façon beaucoup plus élémentaire en fait que le recours à une théorie physique aussi fine que la mécanique quantique. Il existe même des théorèmes mathématiques qui montrent qu'il y a une double indécidabilité. Une indécidabilité de l'ordre si on part du désordre et une indécidabilité du désordre si on part de l'ordre. Par exemple, on peut très bien imaginer que l'ordre apparent qui se manifeste à notre échelle, l'échelle macroscopique, l'échelle où nous pouvons prévoir le mouvement des planètes, par exemple, ne soit en vérité qu'une énorme somme statistique de quantité de mouvements désordonnés. Donc c'est l'hypothèse de la loi des grands nombres en statistique. Inversement, on peut très bien considérer que le désordre microscopique apparent que l'on constate lorsque l'on fait des expériences en physique quantique, eh bien, soit lui le fruit de ce qu'on appelle le chaos déterministe, c'est-à-dire finalement des effets absolument infinitésimaux, mais qui s'amplifient au cours du temps, de perturbations initiales elles-mêmes infinitésimales. Donc on peut aussi bien avoir une origine de l'ordre dans le désordre qu'une origine du désordre dans l'ordre. Et les deux possibilités sont parfaitement indécidables.
Michel Bitbol sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce jeudi pour parler de David Hume, c'est-à-dire de physique quantique, ou bien de physique quantique, c'est-à-dire de David Hume, c'est indécidable.
Ce que vient de dire Michel Bitbol me fait penser à quelque chose que, naturellement, il connaît mieux que moi, les systèmes dynamiques non linéaires. C'est-à-dire là où les effets ne sont pas proportionnels, précisément, à la cause, à l'intensité des causes. Alors, naturellement, il y a l'exemple fameux du pendule qui, en oscillation, peut être perturbé et qui, par conséquent, peut... avoir des turbulences et des effets imprévisibles ou réputés imprévisibles. Et puis, il y a les objets fractales, et notamment, naturellement, de manière paradigmatique, le flocon de neige. Et là encore, on a quelque chose qui dépasse, apparemment, dans l'imprévisibilité même de la tourmente, du tourbillon, ce qui était prévu au départ. Donc, cette idée qu'il n'y a pas de corrélation immédiate entre la cause et l'effet, et qu'il y a une variabilité concernant l'intensité des effets.
C'est deux problèmes quand même, non, Didier Deleuil, Michel Bitbol. D'un côté, s'interdire de parler de relation de cause à effet, en tout cas s'interdire de le dire en vérité. En somme, faire de cela une convention ou une croyance, et considérer qu'il existe des effets plus vastes que leur cause. Est-ce que c'est le même problème, Michel Bitbol ?
Écoutez, c'est vraiment extrêmement important ce que vous venez de dire, Didier Deleuil, parce que je pense que, par exemple, Poincaré avait un argument
absolument... Vous rappelez que vous ne parlez pas ici du président de la République, allez-y.
Non, effectivement, je parle du mathématicien. Donc, Henri Poincaré, en l'occurrence, avait montré qu'il était possible de considérer qu'un objet ou qu'un phénomène avait véritablement une cause, sans que pour autant son comportement soit ordonné. Par exemple, il considérait que des comportements apparemment désordonnés pouvaient être dus au fait que les causes de ce comportement étaient trop petite pour être perceptible, trop complexe pour être appréhendée par l'intellect, ou trop distante pour être vue, parce que, par exemple, la cause pouvait se trouver à l'autre bout de l'univers. Donc il y avait ces trois possibilités qui permettaient de rendre raison du cas où il semblait qu'un événement n'ait pas de cause. Bon, donc cela prouvait, en tout cas, que lorsque...
Ces trois hypothèses qui reposent quand même sur l'idée qu'il y a une cause, et que si nous ne la voyons pas, c'est qu'elle est cachée.
Alors, ça repose non pas sur cette hypothèse, parce que ça voudrait dire que Henri Poincaré était sûr de son fait, mais ça repose simplement sur le constat qu'il est impossible, encore une fois, d'en décider. C'est-à-dire, quand vous voyez quelque chose de non ordonné, n'en inférez pas immédiatement qu'il n'y a pas de cause. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a forcément une cause. Ne confondons pas l'affirmation dogmatique avec le doute sceptique. Ici, il s'agit d'un doute sceptique.
Mathilde.
Oui, vous définiriez plutôt le scepticisme de la physique quantique en termes d'indécision plutôt qu'en termes de doute ou d'indétermination profonde de la nature à ce titre-là.
Effectivement, il y a une part d'indécision en physique quantique qui est indubitable. Le débat, le fameux débat qui a duré tellement de temps sur l'interprétation de la mécanique quantique est bien la preuve d'une certaine indécision sur son statut. Bien. D'un autre côté, il y a beaucoup de choses en physique quantique qui ne devraient pas tomber si entièrement sous le chapitre du scepticisme. Par exemple, il est vrai que les lois de la physique quantique sont probabilistes. Il est vrai donc que chaque événement en particulier n'est pas déterminé par quelque chose que l'on peut cerner avec précision. Mais pour autant, les lois probabilistes sont des lois. Il y a des règles de consécution, non pas certes des événements entre eux, mais une règle de consécution des probabilités. Donc, il y a une forme de légalisation que Kant lui-même reconnaissait comme une variante plausible d'applicabilité du principe de causalité, aussi incroyable que cela puisse paraître.
Mais vous avez parlé de Kant,
oui, tout à fait.
Mais c'est en cela qu'il est humien, justement, puisque Kant reprend, au fond, ce que Hume dit quand il parle d'une habitude de l'entendement.
Absolument.
Étrange oxymore d'ailleurs.
Oui,
Humien, comment l'entendement peut-il procéder par habitude? L'entendement relève de ce qu'on appelle les vérités géométriques, les vérités absolues. Les habitudes relèvent de ces vérités de fait, expérimentales, empiriques. Quand on parle d'habitude de l'entendement, c'est comme si on corporéisait l'entendement. Cette intuition humienne d'un entendement qui s'habitue et que finalement Kant reprend à son compte et fournit une autre version de ce que raconte Michel Bidbol ici,
oui,
Didier
oui.
Deleulin.
Oui, absolument. L'habitude, c'est d'abord l'accoutumance. Ce n'est pas donné. C'est un processus qui peut être assez long. Et il est évident qu'aux yeux de Hume, comme ce sera le cas d'ailleurs plus tard aux yeux de Bergson, l'être humain est un être qui, précisément, est un être d'habitude. L'habitude n'est pas une seconde nature, c'est sa nature. Sa nature propre. Et donc, de ce point de vue-là, l'entendement, qui d'ailleurs, chez Hume, se confond, comme vous le savez, avec l'imagination. L'entendement ou l'imagination ne peut se reposer que sur des expériences qui sont simplement des motifs, qui sont une assise, mais qui jamais ne révéleront le mécanisme. C'est-à-dire que le mécanisme est justement à rechercher ailleurs que dans l'expérience elle-même. Et c'est la raison pour laquelle il se tourne vers cette accoutumance, vers cette habitude, qui elle-même n'a le sens que par rapport à la croyance, à la conviction que les choses continueront bien à être ce qu'elles ont été par le passé.
Est-ce que c'est l'habitude qui engendre la conviction ou est-ce que c'est l'optimisme ou la conviction qui produit les habitudes chez
Hume ? C'est l'habitude qui engendre la conviction, bien sûr.
Naturellement.
Naturellement. Mais en même temps, la croyance apparaît comme une sorte d'instinct chez Hume. Il ne faut jamais oublier ça.
Mais l'habitude elle-même, d'ailleurs, n'est-elle pas la source de l'instinct? C'est une des questions les plus difficiles et les plus indécidables
absolument.
En philosophie, c'est la
exactement.
Question des caractères.
Du caractère, tout à fait.
Qu'est-ce qui forme un caractère? Est-ce un caractère qui justifie certains comportements
absolument.
Qui le forment ensuite? Est-ce en forgeant qu'on devient forgeron? C'est une autre affaire. On en parlera quand on parlera d'Aristote ici. Mathilde Unger.
En parlant d'habitude de l'entendement, je me demandais, il semble y avoir tellement d'obstacles épistémologiques à se représenter les choses selon la physique quantique. Alors je me demandais, est-ce qu'on s'habitue à cette représentation? Est-ce que c'est possible de se débarrasser de ces obstacles et d'habituer son entendement à une telle abstraction ou une telle indétermination, justement?
Alors, bon, d'abord, Michel Bitbol. D'abord, il faut dire que Hume nous aide une fois de plus, parce que dans l'enquête sur l'entendement humain, que je viens de relire justement à l'occasion de cette émission, eh bien, Hume nous dit qu'il est, que tout comme on peut s'habituer à une régularité stricte dans la succession des événements, on peut aussi s'habituer à une régularité seulement probabiliste.
Absolument.
Et donc, dans les mêmes conditions qu'on fait agir ce qu'on appelle le processus d'induction pour des lois strictes, déterministes, on peut aussi faire agir l'induction pour inférer des lois de type probabiliste. Et il le dit d'une façon incroyablement claire. Et en physique quantique, c'est exactement ce qu'on en a fait. On a effectivement inféré des lois de succession de probabilités plutôt que des lois de consécution stricte des événements. Maintenant, est-ce qu'il faut les interpréter seulement sous l'angle de l'habitude ? Là, j'ai des doutes sérieux. Et personnellement, je préfère souvent utiliser une approche kantienne plutôt que humienne du statut de ces lois probabilistes comme, je dirais, condition de possibilité d'une certaine mise en ordre objective des phénomènes. L'objectivité que l'on ne peut pas trouver au niveau des événements individuels, on la trouve très bien au niveau des statistiques en physique quantique. Et c'est à cause de cela, à cause du désir de retrouver un niveau d'objectivité sur quelque chose d'autre que les événements individuels qui devient en fait la répartition globale, statistique des événements, qu'on a mis en place cet ensemble de lois mathématiques qui est utilisé à l'heure actuelle en physique quantique.
On pourrait résumer tout ce que nous disons en une question. Que pouvons-nous véritablement connaître ? Question qui est posée à la fois par les quantas et par la philosophie de David Hume, Didier Deleule.
Oui.
Au fond, l'enjeu, c'est que pouvons-nous connaître ou que connaissons-nous
que
quand
connaissons-nous.
On croit qu'on connaît.
Que connaissons-nous quand on croit qu'on connaît. Effectivement. La formulation est bonne. Alors, que connaissons-nous quand on croit qu'on connaît ? Nous connaissons peu de choses, en réalité. Précisément, nous connaissons que nous croyons que nous connaissons, et rien de plus. Et la démarche humienne consiste à montrer que cette croyance, à la limite, serait irrationnelle, au bon sens du terme, bien sûr, hein, irrationnelle, hors raison, disons, hein, parce qu'on ne peut pas en rendre raison, et que c'est une impression liée à une idée, lestée du poids de l'habitude, de l'accoutumance. Et qu'en définitive, cette connaissance que nous avons, c'est une connaissance purement conjecturale. C'est une connaissance conjecturale, mais qui néanmoins est parfaitement maîtrisée comme telle et considérée comme ferme. Et on peut avoir une connaissance conjecturale ferme. C'est toujours le phénomène de la croyance, du belief, qui est évidemment, encore une fois, une notion extrêmement forte et qui n'applique pas simplement une vague créance ou une foi, que sais-je encore, n'est-ce pas ? Ce n'est pas ce Glauben de Kant, c'est véritablement la conviction totale. Hein, la conviction totale.
Michel Bitbol.
Bien, bon, là aussi, je m'aperçois à quel point Hume est un auteur riche et fécond, à travers ce que vient d'en dire Didier Deleule. L'idée d'une une connaissance conjecturale ferme, c'est exactement comme ça que je définirais la physique quantique. C'est-à-dire que la physique quantique, au départ, était vue comme une simple description de quelque chose qui serait complètement extérieur à nous, comme pouvaient l'être toutes les théories physiques antérieures. On pouvait considérer, par exemple, que la mécanique classique était une description du mouvement des particules, du mouvement des petits corps matériels. Mais la physique quantique a complètement fait basculer cette vision de la théorie physique et nous a montré qu'elle décrivait tout autre chose. Elle décrit, comme je vous l'ai dit, l'évolution des probabilités. Or, les probabilités, qu'est-ce que c'est ? Ben, ce sont des conjectures, des conjectures sur ce qui va se passer, du moins sur ce qui va se passer dans des grands nombres d'événements. Et cette connaissance conjecturale, prédictive plutôt que descriptive, qui est typique de la physique quantique, eh bien, c'est aussi une connaissance ferme, puisqu'elle est soumise à des lois. Donc vous avez exactement la définition que vient de donner Didier Deleuille d'une connaissance conjecturale ferme.
Dans le journal des Nouveaux Chemins, mardi dernier, Adèle Van Rett citait, je crois, Paul Valéry et parlait, il me semble, de bribes de futur. Est-ce que cette expression convient à ce qu'on peut dire des probabilités ?
Oui, tout à fait. Il y a Karl Popper qui disait que la conception mécaniste, c'était une conception qui considérait que la physique était la description de l'impulsion du passé sur le présent. C'est la petite pichenette ou le choc des boules, si vous voulez. La boule passée vient cogner la boule présente et donner un mouvement, imprimer un mouvement à cette boule. Mais la physique quantique voit les choses de façon complètement différente. Et là aussi, je fais appel à Popper et à son concept de propension. Elle voit la description non pas de quelque chose qui lui vient du passé, mais des ouvertures qu'elle a vers le futur. Et ces ouvertures, elles sont exprimées par l'outil prédictif qui s'appelle le vecteur d'état ou plus anciennement la fonction d'onde.
De sorte qu'on peut être, Didier Deleuille, encore juste une question quand même, on peut être sceptique et prédictif à la fois.
Oui, c'est possible. C'est possible. C'est même,
comme s'il était plus difficile de dire le présent que de prédire l'avenir.
Oui. Non, mais on est forcément, le sceptique est forcément prédictif. Du moins, le sceptique, à la façon jungienne, hein, il est forcément prédictif, puisque, encore une fois, il considère que ce qui s'est passé doit pouvoir se reproduire à l'identique. Et par conséquent, c'est une manière de prédiction. Hein. Naturellement, il peut se tromper. Mais en même temps...
C'est la dinde inductiviste de Russell, je crois,
oui, non,
qui croit tous les jours que... Je ne me souviens plus. Et qui, un jour, c'est le jour de Noël.
Le jour de Noël, c'est ça.
Voilà, c'est ça, se fait couper la tête
et manger le jour fatal. Oui, naturellement. Alors, être sceptique au sens où l'entend Hume, c'est être skeptikos, c'est-à-dire chercheur, curieux. C'est le premier sens du mot grec, skeptikos. Et non pas skoptikos. Qui veut dire railleur, moqueur, hein, et qui serait plutôt à verser, moyennant Hume, au compte des pyrrhoniens. Puisque le pyrrhonisme, c'est, dit-il, un pur amusement, en français dans le texte, un pur jeu de l'esprit, en français dans le texte. Hein. Car s'il se prenait au sérieux, bien entendu, cela conduirait à l'apraxie, à l'impossibilité, à la léthargie, et naturellement à la mort. Comme l'âne de Buridan. Voilà.
Celui qui, là encore, est dans l'indécidable. Ouais, il ne peut pas choisir.
L'isosthénie empêche la décision. Bien. Alors que dans le scepticisme tel que le conçoit Hume, dit modéré, mitigé, moderne, comme on voudra, vaguement calqué sur le modèle des académiciens, qu'il connaissait grâce à Cicéron, Carnéane notamment, là, nous sommes dans un registre qui est naturellement lié aux probabilités. Ça vient de là, hein, le probable. Le vraisemblable, il faudrait jouer sur les registres du mot grec, mais enfin, peu importe ici. Et donc, nous sommes véritablement là dans la possibilité de prévoir. Le sceptique tel que Hume l'envisage, c'est aussi celui qui, naturellement, passe son temps à prévoir ce qui va se passer.
Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, notamment sur le rapport des philosophes à l'avenir.
Naturellement. Mais il ne peut pas en rendre raison, au sens noir du terme. C'est ça, le problème.
Dieu l'en garde.
Voilà.
Imite en courteline un sceptique notoire, manifestant ainsi que l'on me désabuse. J'ai des velléités d'arpenter les trottoirs avec cette devise écrite à mon gibus. Je ne crois pas un mot de toutes ces histoires. Dieu, diable, paradis, enfer et purgatoire, les bons récompensés et les méchants punis, et le corps du Seigneur dans le fond du ciboire, et l'huile consacrée comme le pain béni. Je ne crois pas un mot de toutes ces histoires. Et la bonne aventure, et l'art divinatoire, les cartes, les tarots, les lignes de la main, la clé des songes, le pendule oscillatoire, les astres indiquant ce que sera demain. Je ne crois pas un mot de toutes ces histoires.
Croyez-nous ou non, c'est l'heure de retrouver le journal des nouveaux chemins de la connaissance et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël.
Tout à l'heure, j'ai parlé de bribes de futur, mais ce n'était pas ça, c'était débris de futur.
Débris de futur, c'est encore plus beau.
C'est encore plus beau.
C'est la formule de Paul Valéry.
Alors, on passe de Paul Valéry, de la physique quantique, à Walter Benjamin.
Oui, alors exactement, on quitte Hume et la physique quantique et on parle mais de Walter Benjamin et surtout de radio aujourd'hui. Alors, non pas pour se regarder le nombril, mais pour nous demander dans quelle mesure on peut penser la radio sous le signe de l'art. En tout cas, c'est la question que Walter Benjamin, l'écrivain et le philosophe allemand, qui a beaucoup réfléchi sur l'œuvre d'art à l'ère de la modernité technique, s'il s'est posé cette question donc du statut de la possibilité pour la radio de devenir de l'art. Walter Benjamin, qui de 1929 à 1933 a beaucoup travaillé pour la radio. Alors nous sommes aujourd'hui avec Philippe Baudouin, qui a écrit un livre sur l'expérience radiophonique de Walter Benjamin, qu'on trouve aux éditions de la Maison des Sciences Humaines. Bonjour Philippe Baudouin.
Bonjour.
Vous êtes en duplex depuis Avignon, ce qui est une autre manifestation de la magie de la radio, on va en reparler. Et dans votre livre, vous retracez l'expérience radiophonique de Walter Benjamin et vous essayez de montrer les liens de ces expériences, de ces créations radiophoniques avec la pensée de l'art de Benjamin. Alors peut-être pour présenter tout ça, c'est à la fois le côté pratique, la pratique en tout cas radiophonique de Benjamin et ses écrits plus théoriques, on peut partir d'une première question, à savoir celle de savoir dans quelle mesure la création radiophonique peut recevoir le statut d'œuvre d'art, c'est-à-dire dans quelle mesure la radio n'est pas seulement un médium, un moyen de transmission, mais peut devenir le lieu d'une création artistique. Philippe Baudouin.
C'est un problème extrêmement grave que vous posez là et auquel Benjamin, finalement, à travers sa pratique du médium radiophonique, a tenté de répondre. Alors, est-ce qu'il y a réussi? Je ne sais pas, mais effectivement, un problème grave que vous posez, que je mettrai en dialogue avec trois difficultés. La première, c'est la difficulté qu'a... Une possibilité de création à laquelle se retrouve confrontée une possibilité de création, un potentiel créateur à l'égard d'un univers bien particulier qui est celui de l'univers des médias. Un média, avant tout, c'est un organe qui diffuse et qui ne crée pas. En tout cas, c'est une première définition qu'on pourrait avancer. D'où la question de l'authenticité de l'art radiophonique. Est-ce que lorsque le producteur de radio réalise une émission, une fiction, etc., fait-il finalement œuvre d'art ? Produit-il quelque chose qu'on pourrait qualifier d'authentiquement artistique. C'est la première difficulté. La deuxième, c'est celle de l'être même de la pièce radiophonique, donc de l'ontologie. Et le principal problème que va poser la diffusion radiophonique, c'est finalement la multiplication, comme disait Paul Valéry, la multiplication de ces présences à distance. L'œuvre, en fin de compte, est véritablement dispersée, éparpillé dans l'espace, dans le temps, et c'est là un deuxième problème qui va être important d'avoir à l'esprit. Et enfin, un problème fondamental pour Benjamin, celui de la tradition et de l'expérience. Peut-on encore, au XXe siècle et aujourd'hui, peut-on encore transmettre quelque chose? Peut-on encore raconter des histoires et surtout à travers quelque chose de profondément indirect. La radio est un médium, elle médiatise, elle met à distance l'auditeur de celui qui lui parle, du producteur, de celui qui lui donne à entendre des choses, des histoires, des fictions, des reportages, etc.
Alors sur ce troisième point, Philippe Baudouin, en quoi, j'entends bien ce que vous dites sur le fait que la radio est un médium et donc elle met à distance. Et donc, qu'on n'a pas cette immédiateté qu'on peut avoir avec d'autres formes d'art, en tout cas de la part du spectateur ou de l'auditeur. Mais en quoi est-ce un problème réellement ? En quoi est-ce que ça diffère du cinéma, par exemple, qui a aussi recours à à énormément de moyens, de médiums, qui créent une distance entre le producteur, le spectateur ? En quoi est-ce que c'est différent ? Pourquoi est-ce que la question même se pose de la possibilité pour la radio de produire une œuvre d'art ?
Bien, je serais tenté de dire que finalement, c'est cette distance qui pose problème pour Benjamin, et c'est ce qu'il va justement essayer de réduire à néant, ou du moins d'instaurer une certaine interaction entre le producteur et l'auditeur. Si vous voulez, Benjamin conçoit la radio comme un moyen d'intervenir dans l'actualité, dans la réalité. C'est ce qui l'intéresse avant tout, et c'est ce qu'il va essayer de faire à travers ses émissions pour adultes, mais aussi ses émissions, ses productions radiophoniques à destination des enfants. Voilà ce qui l'intéresse. Il faut, selon lui, absolument abolir le hiatus qui existe entre l'auteur de radio et l'auditeur. Pourquoi ? Parce que son intention, d'ailleurs, il dit cela en se référant à Brecht, son intention, c'est de transformer la radio, qui était jusqu'alors conçue comme un appareil de distribution, en un véritable appareil de communication populaire. Voilà son objectif.
Alors,
pourquoi la distance est un véritable problème pour lui.
Alors, comment Benjamin procède-t-il concrètement pour parvenir à ça, pour effacer cette distance, ou en tout cas la réduire, entre le producteur et l'auditeur ?
La première chose, ben, selon lui, c'est il s'agit de travailler sur la forme même de l'émission radiophonique. Comment cela ? Ben, en travaillant sur la diction, sur l'intonation, sur la manière de s'adresser à l'auditeur qui est de l'autre côté. Essayer de travailler à partir du langage, de proposer des formes novatrices, de nouveaux formats, de nouveaux genres radiophoniques. Et ça, il le fait de différentes manières. Il propose des pièces expérimentales qui n'avaient pas véritablement existé jusqu'alors. Il propose des émissions véritablement pratiques qui sont censées réconcilier finalement l'auditeur et le producteur de radio, des situations dans lesquelles on va expliquer à l'auditeur de quelle manière se comporter lorsqu'on va se retrouver en face de son patron, qu'on va vouloir lui demander une augmentation de salaire. Comment s'adresser à son chef pour réussir à obtenir de sa part, avec son consentement et même avec un peu plus, avec de l'audace, demander encore plus que ce qu'on espérait avoir au départ, comment réussir tout cela. Et enfin, peut-être une des choses les plus importantes, une des créations les plus surprenantes de Benjamin en matière de radio, ses contes radiophoniques pour enfants, ouais. Où il s'agit d'éclairer l'enfant auditeur.
Voilà, et je rappelle juste pour terminer, puisqu'on est déjà à la fin de cet entretien, que la période que vous avez choisi de parler dans votre livre, dont vous avez choisi de parler, c'est celle de 1929 à 1933. Et c'est pas anodin, puisque ça correspond à une période d'engouement très important de la part du public, et à une période d'inventivité, de créativité des programmes. Et également, c'est cette période-là qui reste un des derniers espaces, je vous cite, d'une libre expression culturelle et artistique, avant évidemment que le nazisme ne confisque la radio à des fins de propagande politique. Merci beaucoup, Philippe Baudouin. Le titre de votre livre, c'est « Au microphone, Dr. Walter Benjamin, Walter Benjamin et la création radiophonique de 1929 à 1933 », et on trouve ça aux éditions de la Maison des sciences de l'homme.
Exactement. C'est noté. Merci à tous. Merci Adèle. Réconcilions hein, l'auditeur et le producteur. Je ne suis pas sûr qu'il faille pour cela, d'ailleurs, donner la parole à l'auditeur. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure façon précisément de s'adresser à lui. Il y aurait là-dessus beaucoup à dire. Vous vouliez nous parler d'autre chose, Adèle ?
Oui, les presses universitaires de France publient ce mois-ci un volume qui réunit des essais d'Annie Fagot-Largeau sur le thème médecine et philosophie. Alors Anne Fagot-Largeau, pardon, non pas Annie, est philosophe et psychiatre. Elle occupe la chaire de philosophie des sciences biologiques et médicales au Collège de France. Et dans ses essais, elle montre en quel sens l'engagement médical implique toute une philosophie. Alors, une philosophie dans sa dimension épistémologique, mais aussi morale et métaphysique. Et donc l'auteur, au sein de tous ses essais, expose avec rigueur et clarté les stratégies médicales, les procédures d'évaluation économique des interventions thérapeutiques. Et au final, on obtient la constitution d'une véritable philosophie de l'acte médical. C'est donc médecine et philosophie, c'est d'Anne Fagot-Largeau, et on trouve ça aux éditions PUF.
C'est noté. Toutes ces informations, on les retrouve sur le site internet des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Et voilà, David Hume, la physique quantique, Paul Valéry, Walter Benjamin, c'était le menu du jour. Merci à tous. On se retrouve demain, de 10h à 11h, pour la suite et la fin de cette semaine sur le scepticisme. C'est du climat que nous parlerons, plutôt du climato-scepticisme. On verra ce que ça donne. On se retrouve également, je vous le dis tous les jours, à toute heure du jour, de la nuit, sur Internet, où vous attendent bibliographies et téléchargements. Sur France Culture dans un instant.
question d'époque.